Les Années-Lumière, édition du 2 mai 2010. L'homme de Néandertal ne serait pas complètement disparu. Nous aurions tous en nous une partie de ses gènes. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, cette histoire de Néandertal qui nous aurait passé de ses gènes, Hugues de Roussan, elle voudrait dire qu'en des temps lointains, Néandertal et Homo sapiens ont fait des choses ensemble.
Oui, Yannick, et ces choses se seraient déroulées à deux reprises, à des époques différentes, et on en retrouverait aujourd'hui des traces dans l'ADN des populations de souche eurasienne.
Je vous parlerai ensuite, moi aussi, de gènes, en fait, de la mutation génétique qui est à l'origine d'un trouble neurologique curieux, les mouvements miroirs. Nous aurons ensuite un courrier des années-lumière. Chantal Srivastava.
Notre auditeur Yannick se demande quoi mettre dans l'assiette des joueurs du Canadien de Montréal. Go Habs Go, avec du steak ou avec des pâtes? C'est ce que nous verrons.
Et pour finir la première heure, nous aurons la chronique. La docteure Marie-Dominique Beaulieu nous parle de l'efficacité des programmes de dépistage du cancer du sein par la mammographie. Deuxième heure. Elle va commencer cette deuxième heure avec vous, Sophie-André Blondin, qui allait nous parler de paysages invisibles.
L'essentiel est invisible. On ne voit bien qu'avec les oreilles. Et les sons, le bruit ont un impact sur la santé. C'est ce qu'étudie l'écologie sonore.
Je recevrai ensuite, en grande rencontre des années-lumière, Sonia Lupien, chercheure en neurosciences, directrice du Centre de recherche Fernand Seguin à l'hôpital Louis H. Lafontaine à Montréal et grande spécialiste du stress chez l'humain, les enfants, les adultes, comme les personnes âgées. Et pour finir, Hugues, vous recevrez l'auteur de la semaine.
Oui, il s'agit de Lucas Salomon, qui a écrit « Cerveau, drogue et dépendance », paru aux éditions Belin pour la science.
Mais pour commencer, les amours de Néandertal et d'Homo sapiens. Or donc, l'homme de Néandertal n'aurait pas complètement disparu. On porterait en nous un peu de son ADN. C'est la conclusion à laquelle est arrivé un groupe d'anthropologues spécialisés en génétique de l'Université du Nouveau-Mexique, un groupe qui vient de rendre public les résultats de sa recherche lors du congrès annuel de l'American Association of Physical Anthropologists. Selon ces chercheurs, l'homme de Néandertal, qui a disparu il y a environ 25 000 ans, et Homo sapiens, c'est-à-dire nous autres, nous sommes des Homo sapiens, eh bien les deux se seraient rencontrés bibliquement à deux endroits différents et à deux époques différentes. Et bien sûr, ils auraient eu une descendance, Hugues de Roussan, nombreuse.
Nombreuse, Yannick. Et pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié l'ADN de 1983 personnes vivant actuellement sur 5 continents. Ils ont analysé pas moins de 600 séquences microsatellites. Les séquences microsatellites, ce sont des marqueurs génétiques dont on se sert en médecine légale pour identifier une personne. Donc, les chercheurs ont trouvé qu'il y avait des variations génétiques qui seraient survenues une première fois il y a 60 000 ans et une deuxième fois il y a environ 45 000 ans. Or, ces variations, Yannick, coïncident avec le moment où l'Homo sapiens a quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans. Mmh. Alors, sur son chemin, il a bien entendu rencontré des populations archaïques locales provenant d'une souche africaine beaucoup plus ancienne. C'était des hommes de Néandertal, selon toute vraisemblance, mais pas forcément. Jeffrey Long est paléontologue et professeur à l'Université du Nouveau-Mexique, et c'est lui qui a dirigé l'équipe de recherche.
The dates that we gave for the intermixture were based on the history of population fissions. And we know from other evidence, archaeological evidence,
Les dates que nous avançons sont basées sur l'histoire des mélanges de populations. On sait à partir de preuves archéologiques que l'Homo sapiens a quitté l'Afrique il y a 60 000 ans. Et les configurations qu'on retrouve dans les variations génétiques nous suggèrent que les mélanges sont survenus justement au moment où l'Homo sapiens a quitté le continent africain et avant qu'il ne se disperse sur tous les continents. On a regardé l'histoire des gènes et on s'est attardé à l'ordre dans lequel les populations ont fusionné. On a conclu que le mélange entre les deux groupes est survenu avant la dispersion de l'Homo sapiens à travers la planète. On s'est aperçu aussi que les deux groupes se sont mélangés une deuxième fois, soit au moment où l'Homo sapiens a migré vers les îles du Pacifique et la Nouvelle-Guinée, il y a environ 45 000 ans.
People moved into the Pacific Islands, New Guinea, and that was about 45,000 years ago.
Alors, Hugues, grande question. Est-ce que les recherches en question ont permis d'identifier spécifiquement de l'ADN néandertalien?
Ce serait trop facile, Yannick. Oui. En fait, les chercheurs ont trouvé dans leur étude des variations génétiques dites significatives dans l'ADN des personnes qui sont de souche eurasienne, sans vraiment pouvoir affirmer que c'était de l'ADN néandertalien. En plus, ils n'ont trouvé aucune trace de ces variations dans l'ADN des personnes de souche africaine. Une seule explication, selon Jeffrey Long, les deux populations se sont mélangées après le départ des Homo sapiens de l'Afrique. Il faut dire aussi, Yannick, que l'homme de Néandertal n'a pas vécu sur le continent africain, ce qui expliquerait pourquoi on n'a pas trouvé ces variations dans l'ADN des personnes de souche africaine. On écoute à nouveau Jeffrey Long.
We found that there was more variation in the people outside of Africa, and we entertained a number of different possibilities that might explain it.
On s'est aperçu qu'il y avait une plus grande variation génétique chez les gens qui ne sont pas de souche africaine. On a cherché différentes explications pour comprendre ce phénomène, mais aucune n'était satisfaisante. Nous en sommes arrivés à la conclusion que la seule manière qui pouvait expliquer cette variation, c'est qu'il y a eu un mélange de populations entre leurs ancêtres Homo sapiens et une branche archaïque de l'espèce humaine.
We were only able to identify that there was more variation in people outside of.
On n'a pas spécifiquement identifié des gènes archaïques, mais on a trouvé qu'il y avait davantage de variations chez les gens de souche eurasienne. Autrement dit, on n'a pas réussi à identifier quel ADN provenait du Néandertal ou d'une espèce archaïque. Mais on a constaté qu'il y avait trop de différences entre les gens de souche africaine et ceux de souche eurasienne qui pourraient s'expliquer par de simples mouvements migratoires de l'Afrique vers d'autres continents.
By the out-of-Africa migrations, the people of Europe, Asia, and the other continents.
Alors, Hugues, est-ce qu'on a pu quantifier, est-ce qu'il reste beaucoup d'ADN de Néandertal chez vous, chez moi, enfin vous surtout, j'imagine?
Merci. Donc, chez les personnes de souche eurasienne, mais en fait, Yannick, il y a deux sous-questions à cette question. La première, quelle est la proportion dans la population de souche eurasienne aujourd'hui qui a ou qui aurait de l'ADN néandertalien? Et la deuxième sous-question, en quelle quantité? On écoute à nouveau Jeffrey Long.
We're trying to figure out what the mixing ratio.
On tente de trouver dans quelle proportion les deux groupes se sont mélangés. Selon nos premières estimations, la proportion serait de 5 à 10 % pour le groupe archaïque et de 90 à 95 % pour les Homo sapiens qui ont quitté l'Afrique.
Ça, c'était au moment où les deux groupes se sont mélangés. Mais aujourd'hui, quel est le pourcentage de la population qui a de l'ADN archaïque ou néandertalien?
My best estimate right now, and this is something that we're exploring further.
Je vous dirais que 100% de la population de souche eurasienne a de l'ADN néandertalien. Et dans quelle proportion? Près de 5%.
In all of us, at least all of us who are of Eurasian descent.
5%, donc, c'était Jeffrey Long, qui est professeur à l'Université du Nouveau-Mexique. Alors, l'homme de Néandertal, on l'a dit, a disparu environ 25 000 ans, Hugues. Est-ce que l'approche génétique pourrait permettre de comprendre dans quelles circonstances ça s'est passé?
En fait, non, il n'y aurait qu'une seule partie de la réponse. On sait que l'homme de Néandertal a vécu pendant plus de 100 000 ans en Europe et au Proche-Orient, et peut-être encore plus loin encore, qu'il a côtoyé de façon plus ou moins continue pendant 35 000 ans l'Homo sapiens et qui finalement, il a disparu il y a environ 25-30 000 ans. On ne sait pas pourquoi il a disparu, il y a plusieurs explications qui sont avancées, mais on n'a pas encore vraiment de réponse. En plus, l'étude génétique du Nouveau-Mexique ne permet pas d'affirmer hors de tout doute que les deux se sont bel et bien mélangés. Mais dans le cas où il y aurait eu mélange, rien n'indique non plus que c'est toute la population néandertalienne qui a été absorbée par les Homo sapiens. Les preuves actuelles en génétique que nous avons ne permettent pas de tirer de telles conclusions, et d'ailleurs pas non plus les preuves archéologiques ou paléontologiques. On écoute Michel Drapeau, paléoanthropologue et professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal.
Pendant longtemps, le débat, justement, bon, est-ce que les humains modernes sont sortis, ont remplacé complètement les populations? Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun métissage, un remplacement complet. Et je dirais à l'autre extrême du spectrum, il y avait ceux qui croyaient plutôt que les humains modernes avaient évolué un peu partout, simultanément à travers le monde, à partir des populations archaïques locales, grâce à une espèce de gène flugénique qui aurait maintenu l'homogénéité de l'espèce. Bon, ça, ce modèle-là, qu'on appelait le modèle multirégional, est pas mal falsifié. On sait qu'il y a vraiment eu un exode de gènes africains très important, là, probablement autour de 60 000 ans, mais la question reste encore, est-ce qu'il y a eu un peu de mélange avec les populations locales, justement, des humains modernes, quand ils arrivaient dans des régions où il y avait des populations archaïques locales, est-ce qu'il y a eu un peu de mélange ou est-ce qu'il y a eu un remplacement complet? Pendant longtemps, je dirais que le remplacement complet avait un peu la faveur populaire. Maintenant, on commence à réaliser qu'il y a eu probablement un certain mélange dans certaines régions. Et on commence à percevoir ou à détecter, si on veut, ces évidences de mélange-là.
Il peut y avoir des preuves archéologiques. Est-ce qu'on a trouvé sur le terrain des preuves de mixité entre les deux groupes, c'est-à-dire qu'on aurait pu trouver, par exemple, des artefacts provenant des deux groupes au même endroit, à la même période, à la même époque?
Au niveau des artefacts, c'est toujours un petit peu plus délicat parce qu'on ne sait jamais, on ne peut pas être certain de qui a fait l'artefact. On a tendance à penser qu'un certain groupe a fait plus un certain type d'artefact et un autre groupe un autre type. Mais on pourrait imaginer un cas où il n'y a pas de mélange génétique, mais un des groupes copie, si on veut, la culture de l'autre. Ça, ça se voit même de nos jours. On va voir des groupes qui vont copier, si on veut, on peut penser à la musique nord-américaine, par exemple, qui est copiée par certains groupes sans qu'il y ait nécessairement eu un mélange génétique. Donc, au niveau de l'archéologie, c'est très difficile de faire une preuve archéologique. Par contre, ce qu'on a, c'est des fossiles, c'est-à-dire des restes squelettiques qui semblent indiquer qu'il y aurait eu un mélange, c'est-à-dire que ce seraient des individus qu'on va appeler hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques qui sont clairement humains modernes, mais ils ont aussi des caractéristiques qu'on considère clairement néandertaliennes, par exemple, en Europe. Donc, un mélange de caractères qu'on normalement attribue soit à un groupe, soit à l'autre. Pour certains, ça serait l'évidence qu'il y a eu effectivement des mélanges, des accouplements, si on veut, entre ces deux populations-là, puis ça serait des évidences, si on veut, morphologiques là, de ces hybridations-là.
Est-ce qu'on a retrouvé dans des sites des fossiles d'hommes de Néandertal et d'Homo sapiens nettement différents? Ça veut dire qu'ils auraient pu cohabiter ensemble sans forcément qu'il y ait eu mixité?
Il y a des régions comme au Moyen-Orient, Israël, des zones où on va avoir par exemple l'évidence que les humains modernes ont occupé la région. Et là, ensuite, évidence que les Néandertaliens ont occupé la région de façon plus récente. Et ensuite, encore les humains anatomiquement modernes. C'est sûr que qu'avec des sites archéologiques, on a un échantillonnage très, très petit par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Donc, est-ce que les humains modernes ont migré au Moyen-Orient? Puis là, peut-être qu'il y a eu un refroidissement du climat. Fait que les Néandertaliens, qui sont peut-être plus adaptés à des climats froids, leur territoire se serait redescendu dans cette région-là. Puis là, quand finalement les températures s'est réchauffées, que là, les humains ont reconquis ce territoire-là, ou est-ce que c'est une évidence de cohabitation simultanée? Ben là, c'est difficile un peu de faire la part des choses avec ce type de données-là.
C'était la paléo-anthropologue Michel Drapeau de l'Université de Montréal. Alors, Hugues, j'imagine que pour avoir le cœur net de tout ça, il suffirait de savoir donc s'il y a eu mélange ou pas entre les deux. Là, il suffirait de comparer l'ADN de Néandertal et l'ADN, notre ADN à nous, non?
Oui, parce qu'actuellement, tout ce qu'on a, ce sont des preuves circonstancielles et indirectes, mais éventuellement, ça va changer. À l'Institut Max Planck à Leipzig, en Allemagne, une équipe dirigée par Svante Paabo est sur le point de compléter, ou encore à compléter et s'apprête à publier le génome d'un homme de Néandertal. Mm-hmm. Alors, quand ça sera fait, alors il sera facile de comparer les deux ADN. Damien Labouda est spécialiste en génétique des populations. Il est professeur au département de pédiatrie de l'Université de Montréal et travaille au centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine.
C'est un peu comme si vous prenez deux livres. Disons, vous avez trois mousquetaires édition française et trois mousquetaires édition polonaise. Et tout d'un coup, vous retrouvez à l'intérieur de votre édition française un chapitre qui est écrit en polonais. Il y a une insertion d'un chapitre. C'est un peu comme ça. Vous retrouvez un fragment d'ADN qui est presque identique comme dans l'autre espèce chez Néandertal. Donc, une fois Pablo va finir à Leipzig la séquence de Néandertal, on va comparer ça, et puis on va comparer avec l'ADN des Africains, on va comparer avec l'ADN des différents Européens, et si on trouve des chapitres, des morceaux d'ADN qui vont être presque identiques, pas identiques parce que c'était il y a 50 000 ans, mais vont être beaucoup plus similaires au Néandertal qu'au reste de jeune homme humain, à ce moment-là, on peut conclure que ça vient de chez Néandertal. Tandis que maintenant, ce que Lang voit, il voit qu'à l'intérieur de l'ADN, on voit des morceaux qui sont très différents chez certains individus par rapport aux autres. Alors, il conclut que ça, c'est un ADN qui vient de l'extérieur, probablement Néandertal.
C'était Damien Labuda, donc, du Centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal.
Vous savez, Yannick, même si on arrivait à établir génétiquement hors de tout doute que les deux populations se sont mélangées à deux reprises, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a réglé la question des circonstances qui ont entouré la disparition de l'homme de Néandertal. La fusion entre des Homo sapiens et des hommes de Néandertal en deux endroits différents, à deux époques différentes, pourrait alors être qu'une seule explication pour expliquer la disparition du Néandertal. D'autres beaux débats en perspective.
N'est-ce pas? Merci beaucoup, Hugues.
Au revoir.
André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
En termes savants, ça s'appelle des syncinésies d'imitation. En termes plus simples, ce trouble neurologique qui touche très peu de gens s'appelle mouvement miroir.
Normalement, le cerveau gauche contrôle la partie droite du corps, comme par exemple, cerveau gauche dit à la main droite, serre la main. Chez ces gens-là, quand le message est envoyé par le cerveau gauche pour serrer la main droite, il serre aussi la main gauche et c'est pas volontaire. Et c'est un mouvement miroir. Alors, s'ils veulent serrer la main droite, ils finissent par serrer les deux mains, droite et gauche. S'ils veulent bouger l'index droit, ils bougent l'index droit et l'index gauche. C'est pour ça qu'on appelle ça des mouvements miroirs.
Guy Rouleau, neurologue et directeur du Centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal.
C'est quelque chose qui est commun chez des jeunes enfants, mais qui disparaît chez quasi tout le monde là, par l'âge de 10 ans. Et on finit avec des cas rares. Certains, c'est des cas qui ont une histoire familiale, qu'on dit dominant, où c'est dans chaque génération. Et d'autres, c'est des cas qui ont l'air d'être sporadiques, disons qu'il n'y a personne d'autre dans la famille qui semble être atteint.
Et est-ce que c'est un trouble qui est très handicapant ou simplement, je dirais presque, une curiosité?
Je pense que c'est juste d'appeler ça plus une curiosité. C'est un petit peu handicapant, mais les gens y apprennent à compenser. Par exemple, il y a des gens qui sont des électriciens, qui font des travaux précis avec leurs mains, qui réussissent à très bien travailler. Donc, c'est une curiosité, je pense que c'est plus mal commode et les gens apprennent à bien compenser.
Guy Rouleau est un spécialiste de la neuromique, la génétique des troubles neurologiques. Avec ses collègues, il publie cette semaine dans la revue Science un article dans lequel il décrit la mutation génétique héréditaire qui est à l'origine de ces mouvements miroirs.
C'est une histoire un peu curieuse. Moi, j'ai un de mes copains neurologues, Sylvain Chouinard, qui travaille avec les troubles du mouvement. Puis un jour, il m'a dit « Ah, Guy, j'ai vu un patient intéressant qui avait des mouvements miroirs. » Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant.
Donc, c'est rare parce que vous êtes neurologue.
Exact. Et là, il m'a expliqué un peu qu'est-ce qu'il avait vu. Puis, il avait dit il y avait une histoire familiale. Alors là, on en a parlé un peu. Puis, on a dit ben, ça serait peut-être intéressant de voir si on pouvait construire une étude génétique alentour de ça. Et finalement, on a vu la famille. On a eu de l'aide d'une étudiante, Myriam Srour. Et puis, ça a pris un an et demi à tout prélever la famille. Une fois qu'on avait l'ADN, Les études génétiques ont pris 3 mois.
Parce qu'on a aujourd'hui des moyens assez rapides d'explorer le gène. Donc, on a séquencé tout le génome de ces gens-là?
Pas séquencé le génome. On a fait des études de liaison classique parce qu'il y avait plus que 10 personnes qui avaient cette entité-là, les mouvements miroirs dans la famille. On a localisé la gène dans une petite région. Et dans cette région-là, il y avait un gène qui était un excellent candidat. On a séquencé le gène et on a trouvé une mutation très, très forte dans ce gène-là.
Alors, ce gène-là, c'est un gène qui était connu pour faire quelque chose dans le système nerveux central, qu'on pouvait soupçonner d'avoir un rôle important?
Oui, c'est exact. C'est un gène qui s'appelle Deleted in Colon Carcinoma.
Et là, vous parlez du cancer du côlon.
Oui, c'est un peu une erreur de l'histoire. La première fois qu'il a été trouvé, il pensait que ça avait affaire avec le cancer du côlon, mais par après, on a appris que c'est un gène qui n'a rien à voir avec le cancer du côlon, mais c'est un gène qui code pour une protéine qui, dans des animaux comme la mouche et la souris, est très importante pour donner le message aux axones, qui sont les projections des neurones, de traverser d'un bord à l'autre du corps, donc du côté droit au côté gauche ou du côté gauche au côté droit.
Et le phénomène biologique de ces sortes de longs fils électriques que sont les axones, donc et qui passent d'un côté à l'autre du corps, eh bien, on comprend bien évidemment que ça se passe pendant le développement de l'embryon, pendant que le système nerveux se construit. Frédéric Charron s'intéresse précisément à la construction du système nerveux. Directeur du laboratoire du développement neuronal à l'Institut de recherche clinique de Montréal, il est un des co-auteurs de l'article de Science. La protéine de guidage des axones, dont vient de parler Guy Rouleau, l'intéresse évidemment au plus haut point.
Au cours du développement embryonnaire, donc, ces axones ou ces fils électriques, en fait, vont être guidés par des molécules qu'on retrouve dans l'embryon. Donc, qui sont des molécules qui peuvent être soit attractives, qui vont attirer ces axones, ou dans d'autres cas, qui peuvent être des molécules répulsives, qui vont dire à ces axones de ne pas aller dans certains endroits. Mais c'est la combinaison de ces molécules attractives et répulsives, en fait, qui vont guider les axones et les amener vers la bonne cible. Donc, c'est ce qui fait, par exemple, que certains nerfs qui vont aller directement, par exemple, se brancher pour activer les muscles du pouce, alors que d'autres nerfs qui vont aller se brancher sur les muscles de l'index, par exemple, ce qui nous permet d'avoir des mouvements distincts de chacun de ces deux doigts.
Et on sait que ces fils électriques, au fond, se croisent. Le cerveau gauche commande la partie droite du corps et le cerveau droit la partie gauche. Il y a des molécules qui sont spécifiquement destinées à faire en sorte que pendant le développement embryonnaire, les fibres nerveuses, au fond, changent de bord.
Oui. Il y a toute une panoplie de molécules de guidage des axones des cellules nerveuses. Puis, une des choses qui est importante de réaliser, c'est qu'au bout des axones qui sont en cours de guidage, il y a une structure qu'on appelle le cône de croissance, qui est une espèce de tête chercheuse, en fait, qui est responsable de détecter ces différentes molécules de guidage. Et cette tête chercheuse exprime des récepteurs, donc des récepteurs qui sont des molécules qui sont à la surface du cône de croissance, qui sont responsables de détecter certaines protéines spécifiques. Et il y a une protéine en particulier qui s'appelle la nétrine, qui était le premier facteur de guidage qui a été identifié. La nétrine, qui est une protéine qui est exprimée au centre du système nerveux, qui est responsable de l'attraction de plusieurs types d'axones vers le centre du système nerveux. Et la nétrine qui agit donc pour attirer plusieurs axones et en les attirant comme ça vers le centre du système nerveux va leur permettre de croiser à la ligne médiane du système nerveux puis de passer d'un côté du système nerveux à l'autre côté.
Alors la nétrine, donc, c'est cette molécule qui assure la circulation à droite, gauche, gauche, droite d'une certaine façon. Dans l'étude qui vient d'être publiée dans Science là, sur ces mouvements miroirs où on voit justement qu'il y a un problème de fibres qui ne passent pas à gauche ou qui ne passent pas à droite. La nétrine est impliquée, bien sûr, et aussi le récepteur à la nétrine, ça marche toujours comme ça, c'est toujours un récepteur. Là aussi, c'est lui est en cause.
Oui, tout à fait. Donc, ce qui fait que la nétrine va agir sur certains types d'axones, mais pas d'autres types d'axones, ça dépend du type de récepteur qui est exprimé par ces axones. Et dans ce cas-ci, le récepteur de la nétrine, c'est une protéine qu'on appelle DCC, qui a été impliquée justement par notre étude comme étant une molécule responsable de l'effet du mouvement miroir. Donc, ce qui se produit, c'est que lorsque, par exemple, le récepteur de la nétrine DCC, par exemple, si ce récepteur est muté, donc on peut imaginer qu'il va y avoir une diminution de la capacité du cône de croissance ou de la tête chercheuse à être capable de détecter la nétrine. Donc, ce qui va empêcher certains axones de croiser normalement et plutôt que, donc ces axones, plutôt que de croiser comme ils devraient le faire normalement, vont maintenant rester du même côté du système nerveux et projeter finalement toujours vers la bonne cible, mais du mauvais côté du système nerveux.
Alors, avec ce genre de recherche, on pousse donc un peu plus loin la compréhension des mécanismes biochimiques complexes qui préside au développement de l'embryon. Et qu'on ait fait ces découvertes chez l'humain n'est pas sans intérêt, explique encore Frédéric Charron.
Malgré le fait qu'il y ait de nombreuses études qui ont été faites autant chez le nématode C. elegans ou encore chez la drosophile ou encore qui ont été faites chez la souris ou chez le rat ou chez le poulet, c'est la première étude en fait qui nous démontre un rôle du système de guidage nétrine DCC chez l'humain. Donc c'est important parce que le fait de confirmer que ces molécules puissent avoir un rôle chez l'humain, en fait, ça permet de penser potentiellement, éventuellement, à des thérapies, par exemple, qui pourraient être développées à partir de la connaissance du fait que ces molécules agissent bel et bien dans le développement du système nerveux chez l'humain.
Ce serait quel genre d'implication thérapeutique quand on rêve un petit peu?
On peut penser, par exemple, aux maladies neurodégénératives ou encore aux maladies de la lésion de la moelle épinière, par exemple. S'il y a une fracture de la moelle épinière, les gens veulent arriver à restimuler la croissance des axones qui sont présents dans la moelle épinière. Mais c'est pas important de seulement restimuler la croissance de ces axones, mais il va aussi falloir qu'ils se rebranchent, qu'ils soient reguidés vers leur cible de façon normale. Et donc, la compréhension comment est-ce que nétrine et son récepteur DCC fonctionnent chez l'humain va être très, très importante pour arriver à assurer le rebranchement normal de ces axones suite à une lésion de la moelle épinière ou encore suite à des maladies neurodégénératives, par exemple. Si on veut remplacer certains types de neurones qui sont en train de dégénérer dans le cerveau, bien, ça va être important que ces neurones-là, non seulement de remettre les bons neurones, mais ça va être important aussi que ces neurones-là refassent les bonnes connexions.
Ça dit, pour en revenir à l'article publié dans Science cette semaine, quelles leçons peut-on en tirer? La réponse de Guy Rouleau.
Le système nerveux humain et de certains autres organismes, il est croisé. Et on ne comprend pas le pourquoi. Pourquoi est-ce que le cerveau droit contrôle le corps gauche? Et puis, non seulement on ne sait pas le pourquoi, on ne savait pas le comment. Et donc, cette étude ici nous donne des indications sur le comment. Le comment est que cette protéine ici est sécrétée, elle est produite, et elle donne le message aux axones de croiser. Tout le monde a deux copies du gène, mais ces patients-là, ils ont une copie qui est bonne et l'autre qui ne fonctionne pas. Donc, ils ont vraiment juste une copie à place de deux. Et présumément, le montant de protéines qui est produite est moins, la moitié. Donc, le message qui dit aux axones « croise » est moins fort. Donc, il y a des axones qui traversent, qui ont le message. Il y en a d'autres pardon, où le message n'est pas assez fort et ils continuent et puis ils restent du même côté. Alors, ça, c'est la première leçon. Ça nous dit le comment que tu as le croisement des axones. C'est sûrement pas toute l'histoire, mais c'est une composante importante. L'autre chose que ça nous dit, c'est que cette protéine-là, si tu as juste une copie du gène, rien d'autre que ça, était autrement entièrement normal. Qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que quand il y a un groupe de neurones, par exemple, dans le cerveau droit, qui envoie un axone pour contrôler l'index gauche, là, ça descend. Les axones, ils ont le message pour traverser, ils traversent, puis ils vont au muscle qui contrôle l'index gauche. Mais ceux qui ne croisent pas, ils ne vont pas n'importe où. Ils vont pour exactement le même groupe de muscles, mais de l'autre côté. Eux, ils vont pour l'index droit. Donc, évidemment, il y a un message index et un message croise. Et puis le message index est intact et donc ils ont des mouvements miroirs. Alors quand ils disent « je veux bouger mon index droit », bien c'est l'index gauche qui bouge avec, hein? C'est pas l'annulaire ou le majeur ou le pouce, et etc., etc. Donc il y a une organisation, c'est merveilleuse là, à propos de où les axones vont aller. Alors même quand ils prennent pas le bon chemin, ils finissent à la bonne place, même si c'est du mauvais bord du corps.
Vraiment merveilleux cette machine. Ça dit... Il reste la grande question que vient d'évoquer Guy Rouleau. D'ailleurs, on sait maintenant donc assez bien comment les fibres nerveuses se croisent pendant le développement embryonnaire, mais pourquoi le font-elles?
C'est une excellente question. En fait, non, à ce jour, il n'y a encore aucune réponse. Pourquoi est-ce que les connexions nerveuses croisent comme ça dans le système nerveux? Puis ça va probablement être encore l'objet d'études encore pour plusieurs années.
Une excellente et grande question. C'était Frédéric Charron, directeur du laboratoire du développement neuronal à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Et auparavant, Guy Rouleau, neurologue et directeur du centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal également. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir, en deuxième heure, en grande entrevue, la spécialiste du stress, Sonia Lupien, qui explique entre autres les hormones du stress, dont les glucocorticoïdes.
Ils sont produits pour une raison, pour vous permettre de faire les seules choses que vous pouvez faire devant la menace, puisque votre cerveau vient de détecter une menace. Vous combattez ou vous fuyez. Dans les deux cas, vous avez besoin d'une seule chose, c'est de l'énergie. Et ce sont ces hormones-là qui vont vous donner l'énergie de combattre le mammouth, le tuer et le manger dans le temps de la préhistoire ou partir à courir s'il est trop gros. Et vous voici ayant survécu à l'abeille. C'est un superbe système.
Et c'est l'heure du courrier des auditeurs cette semaine. Une question qui tombe vraiment, vraiment à point, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bonjour à toute votre équipe des Années-Lumière. Votre émission est toujours super. Mon nom est Jean-Claude Boitler de Princeville. C'est la fièvre de la Coupe Stanley à Montréal et un petit peu partout. Et j'ai une question qui a rapport un petit peu au sport, au hockey plus précisément. Parce que j'ai des amis qui étaient restaurateurs. On m'a dit que dans les années 60, les joueurs de hockey de la Ligue nationale allaient manger dans cet établissement. Nick Fender Steak vers 3h l'après-midi, il allait faire un petit somme et puis il allait jouer la partie le soir. Et finalement, dans les années ça des 10 à peu près, tout le monde se sont mis à manger des pâtes alimentaires. Pourriez-vous m'expliquer lequel qui était le meilleur des deux? Est-ce que c'était un bon steak ou encore des pâtes alimentaires et appeler un nutritionniste ou une nutritionniste? Moi, je ne le sais pas, là. En tout cas, au revoir et longue vie à votre émission.
On va manger du steak ou des pâtes alimentaires ou les deux. Alors, que faut-il mettre effectivement dans l'assiette des champions? Eh bien, Monsieur Boisclair, pour vous répondre, Chantal Srivastava a joint une sommité en nutrition sportive. Elle s'appelle Marielle Ledoux. Elle est directrice du département de nutrition de l'Université de Montréal. Elle a supervisé la publication du livre « Nutrition, sport et performance », un livre qui porte justement sur l'alimentation des athlètes. Et elle a même, à une certaine époque, mangé un bon steak avant de jouer au basketball, a-t-elle confié à Chantal Srivastava.
Ça va vous donner une idée de mon âge, mais dans le temps, avant les parties, avant les entraînements ou les grands matchs, on allait effectivement tous en équipe manger notre steak avec salade et pommes de terre au four parce que dans ce temps-là, on se disait que, bon, ben dans le fond, ce qui va être utilisé pour faire l'exercice, c'est nos muscles et évidemment, pour faire des muscles, ben, ça prend des protéines. Ben, c'est le fameux steak qu'on mangeait à ce moment-là. Par contre, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu dans l'erreur. On a pu voir que finalement, c'est de l'énergie que ça nous prend pour faire bouger ce fameux muscle. Alors, l'énergie, ben, ça nous vient des glucides, ça nous vient des lipides qui se retrouvent dans notre corps de façon générale. Les lipides, on en a de bonnes réserves et même si on est bien mince, on va les utiliser selon notre niveau d'entraînement. Plus on est entraîné, plus on va les utiliser. Mais par contre, la réserve d'énergie qui part le plus rapidement et qui est utilisée le plus rapidement, c'est la réserve de glucides ou sous forme de glycogène, soit au niveau du foie, soit au niveau des muscles.
Et donc, c'est pour ça donc, que les pâtes entrent, là, on veut des hydrates de carbone dits lents, quelque chose qui va lentement nous fournir ce dont on a besoin tout au long de l'effort.
Les pâtes, effectivement, ont comme rôle, et c'est ça la beauté de la chose, mais les pâtes, comme le riz, comme les fruits, comme les céréales, etc., vont maximiser nos réserves au niveau des muscles comme au niveau du foie. Alors, dans les heures qui précèdent et même dans les jours qui précèdent des matchs ou un entraînement, tout simplement, la meilleure chose à faire, c'est de prendre des glucides.
On les prend où, idéalement, Mme Ledoux, ces glucides-là?
On parle de pain ou de céréales ou de pâtes ou de riz ou de légumes comme les pommes de terre ou des barres de céréales, finalement. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Toutes ces choses-là prennent plus de temps à être absorbées, puis vont, disons, de toute façon, aller se stocker dans les muscles ou dans le foie et vont nous fournir l'énergie qu'on a besoin pendant l'effort. Mais ça, il faut les prendre plus longtemps avant parce qu'on ne veut pas être en train de digérer pendant qu'on va faire l'exercice. Évidemment, quand on parle de marathoniens, quand on parle de gens qui courent sur une longue distance, les cyclistes ou qui font des courses de longue durée, les triathlètes, par exemple, là, on va parler de bien mettre en réserve notre glycogène et aussi de prendre quelque chose pendant l'effort. C'est absolument essentiel. Pour les joueurs de hockey, ces gens-là ont besoin de beaucoup de liquide pendant, mais ils ont besoin aussi d'énergie pendant. Mais ils avaient besoin de faire leur réserve aussi auparavant. Maintenant, monsieur, madame, tout le monde qui va jouer au hockey, par exemple, pour son plaisir, ou qui va faire un sport où il va suer beaucoup et puis il va se donner à une forte intensité, lui aussi a besoin de bonnes réserves de glycogène, a besoin aussi de prendre de l'eau, de bien s'hydrater et de prendre, selon la durée, peut-être quelque chose qui contient un peu de sucre aussi pendant l'effort pour aider à maintenir son taux de glucides en circulation, sa glycémie à un bon niveau.
Mais Madame Ledoux, je vous remercie infiniment et en espérant que ces judicieux conseils qui sont sûrement suivis par les joueurs du Canadien leur servent à quelque chose.
On l'espère.
Merci beaucoup. Au revoir.
Chantal Srivastava interviewait Marielle Ledoux, qui est directrice du département de nutrition de l'Université de Montréal et partisane de la Sainte Flanelle, bien sûr. Si vous avez, vous aussi, des questions de science, vous pouvez le faire par téléphone, 514-597-6166, ou alors de l'extérieur de la ville, 1-800-752-9050. Il y a aussi le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière maintenant avec cette semaine Marie-Dominique Beaulieu.
Bonjour.
Marie-Dominique Beaulieu, médecin de famille au centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Et on va revenir, une fois de plus, je vais dire, les programmes de dépistage du cancer du sein par les mammographies. Et cette fois avec une étude qui semble remettre en question l'utilité de ces fameux programmes destinés aux femmes de 50 à 69 ans, on sait. Et le pavé dans la mare est jeté par une équipe danoise. Une étude publiée tout à fait récemment. Alors, bien sûr, vous avez regardé cette étude-là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention.
Tout à fait, tout à fait. Alors, d'abord, je veux faire un premier point de clarification. L'efficacité de la mammographie de dépistage chez les femmes âgées entre 50 et 69 ans a été démontrée dans plusieurs études expérimentales contrôlées dans différents pays. Et en général, on s'entend pour dire que l'efficacité de la mammographie, ça contribue à réduire dans environ 25 % la mortalité attribuable au cancer du sein. La preuve est tellement bien établie qu'à peu près tous les pays ont justement développé des programmes. Mais la question, on peut se dire que les pays se posent souvent, c'est lorsque j'applique cette mammographie dans des conditions non expérimentales, hein, dans la vie de tous les jours, j'invite des femmes et tout, est-ce que mon programme fait une différence? C'est à cette question-là, en fait, que les chercheurs danois ont voulu répondre. Ils n'ont pas évalué l'efficacité de la mammographie de dépistage, mais du programme danois de dépistage du cancer du sein.
Alors, cette étude danoise dit quoi, fait quoi, raconte quoi?
Bon, on peut tout de suite dire qu'est-ce qu'elle nous dit. Elle suggère que le programme de dépistage, en tout cas au Danemark, dans ses premières années, ses 10 premières années, n'a pas contribué à réduire la mortalité par cancer du sein, parce que la mortalité s'est améliorée au Danemark, mais ils pensent que c'est plus attribuable à l'amélioration des traitements.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette étude? En fait, ils ont fait une étude toute simple. D'ailleurs, ils le disent dans l'article, qu'il n'y a pas aucune complication statistique. Ce qu'il y a au Danemark, c'est que pendant une dizaine d'années, il y a seulement 2 régions qui ont eu la mammographie de dépistage, qui représente 20 % de la population, et tout le reste de la population n'avait pas la mammographie. Donc, ils ont tout simplement comparé l'évolution de la mortalité au niveau des populations dans ces 2 régions. Et c'est là qu'ils n'ont pas observé une diminution de mortalité additionnels dans les régions où le programme de dépistage avait été déployé, si vous voulez. Bon, évidemment, ils sont très clairs sur les limites de leur étude. Écoutez, ils n'ont pas du tout, ils ne savent pas dans quelle mesure ces femmes-là ont vraiment répondu à l'invitation du dépistage. On ne sait pas non plus dans les groupes contrôle combien de femmes avaient eu des mammographies. La technologie existe quand même. Hein, le programme n'était pas déployé, mais ça suggère qu'en tout cas, au Danemark, le programme n'a peut-être pas eu l'effet qui était escompté.
Mais alors, il y a des limites. Oui. On fait comme si toutes les femmes de la région où le programme existait avaient subi les mammographies et comme si toutes les femmes des régions où le programme n'existait pas n'avaient pas eu de mammographie.
Exactement. Et on ne contrôle pour aucun facteur de risque connu non plus.
Embêtant.
Donc, c'est embêtant. Et puis, c'est sûr que ce n'est pas du tout dans un contexte expérimental. Donc, écoutez, c'est une étude qui contribue au bruit autour de la mammographie, hein, comme vous le disiez si bien, il y a tellement de recherches, mais qui, je ne pense pas, doit remettre en question notre programme,
On a un programme au Québec qui a été étudié, il y a des données probantes. Oui, alors.
En fait, on est chanceux, mais notre programme de dépistage a été lancé dans les années 90, autour de la fin de 98, en fait.
On parle au Québec.
On parle du programme de dépistage au Québec. Il faut savoir que dans toutes les provinces canadiennes, il y en a. Et donc, en 2009, tout récemment, l'Institut national de santé publique a voulu répondre aux mêmes questions que les chercheurs danois ont voulu poser pour leur pays. Est-ce que ça marche? Alors, ce qu'ils ont fait, eux, quand même, ils ont donc pris quatre façons d'essayer de répondre à la question et de voir l'évolution de la mortalité. Une approche très semblable aux Danois. On regarde toutes les femmes, puis on regarde s'il y a une différence dans le temps, avant le programme, avant et après. Ensuite, on regarde la mortalité chez les femmes âgées seulement entre 50 et 69 ans, avant, après.
D'accord.
Mais ensuite, on regarde, parce que ce qu'on a de plus au Québec, c'est qu'on pouvait savoir les femmes qui ont passé la mammographie. Parce qu'on a une base de données qui nous le dit. Alors, ils ont donc aussi pu regarder l'évolution de la mortalité chez les femmes qui ont effectivement, je dirais, pris l'opportunité,
suivi
le programme, qui est suivi à peu près à 55-56% de la population au Québec. Et donc, qu'est-ce que nous disent ces résultats? Bon, si on regarde une approche très populationnelle, un peu qui ressemble à celle des Danois, ça donne comme diminution de mortalité 3% de diminution de la mortalité.
En 10 ans, c'est pas
fort. Non, hein? On est loin de notre 25% des études. Quand on regarde maintenant la mortalité, la diminution chez les femmes qui ont l'âge d'avoir été invitées, on a une diminution de 11 %. Déjà, c'est un peu plus, mais c'est encore, on est loin du compte.
C'est pas beaucoup, beaucoup,
pas
beaucoup.
Pas tant que ça, non. Mais lorsque l'on regarde, selon deux méthodes différentes, je ferai grâce des détails techniques, l'évolution de la mortalité chez les femmes qui ont accepté l'invitation. Vous savez qu'à 50 ans, toutes les femmes reçoivent une invitation et à tous les deux ans vont la recevoir jusqu'à 70 ans. Eh bien, chez les femmes qui ont effectivement accepté l'invitation, on observe une réduction de mortalité qui varie entre 35 et 40 %, ce qui est honnêtement énorme.
Et c'est le vrai chiffre intéressant.
Ben, c'est le chiffre intéressant, j'aurais le goût de dire, pour les femmes. Donc, le programme lui-même peut avoir l'air moins efficace, de l'ordre de 11 % peut-être comme programme. Mais quand on a, et là, ça appartient aux femmes, d'accepter l'invitation, aux médecins de famille et aux gynécologues de les convaincre.
Parce que si on écoute uniquement la recherche danoise, on dit « ça ne vaut pas la peine de faire un programme ». Et les recherches québécoises disent « oui, ça vaut la peine quand on suit une bonne diminution de la mortalité ».
Quand on répond à notre invitation comme femme d'aller passer une mammographie. Écoutez, je ne veux pas faire l'apologie de la mammographie. Ce que je veux dire, c'est clair que ça contribue à diminuer de 30 à 40, bon, 30 % je pense, en général. Donc, il y a d'autres choses qu'on doit faire pour réduire la mortalité, les facteurs de risque, les traitements. La mammographie n'est pas sans désavantages. Vous savez qu'une femme, dans sa vie, si elle fait répond à toutes les invitations, aura environ 12 % auront un moment donné un test anormal. Une mammographie, même un peu plus, même ça peut aller jusqu'à 30 % une mammographie anormale, donc qui va les inquiéter.
Bien sûr.
Mais souvent, on ne fait que faire une mammographie plus poussée ou une échographie et on règle le problème. On voit que ce n'était pas en fait anormal vraiment. Donc, c'est sûr que c'est un programme qui a des impacts, qui n'est pas sans désavantages reliés à l'anxiété et aux gestes additionnels. Mais c'est quand même un programme qui contribue réellement à réduire la mortalité.
Et Dominique Beaulieu, je vous remercie beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
À Alors, je vous invite à ne pas manquer ce soir à la télé de Radio-Canada à 18h30 l'émission Découverte. Charles Tisser présente la suite de la série La Terre. L'épisode porte sur le monde des prédateurs et des proies. Cela dit, vous restez avec nous après les nouvelles, la suite des Années-Lumière. Les Années-Lumière, deuxième heure. Deuxième heure, deuxième partie de votre magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Yannick Villieu, toujours à l'équipe pour vous le présenter. Alors cette deuxième heure, elle commence avec Sophie-André Blondin qui va nous parler d'écologie sonore, s'il vous plaît. Je recevrai ensuite, en grande entrevue des Années-Lumière, Sonia Lupien, spécialiste du stress, directrice du Centre de recherche Fernand Seguin à l'hôpital Louis-H. Lafontaine de Montréal. Et pour finir, Hugues de Roussan recevra l'auteur de la semaine. Il s'appelle Luca Salomon. Il a écrit un livre intitulé « Cerveau, drogue et dépendance ». C'est aux éditions Belin pour la science.
Bruit, il n'y a pas de vie. Où est-ce qu'il y a de la vie, il y a du bruit.
Ça, c'est une belle déclaration et c'est vrai. Et le bruit, Lily Jeté, elle connaît. Elle habite littéralement sous l'échangeur turco à Montréal. Sa vie, Sophie-André Blondin, c'est en partie le bruit.
Et oui, mais comme nous tous, Yannick,
oui.
Comme nous tous, dans le sens de tous les organismes vivants sur la terre ferme, en tout cas. Lily Jeté qu'on vient d'entendre dans son jardin sous l'échangeur, les grenouilles dans leur marais, le moine dans son silence. L'environnement, c'est pas seulement ce qui est donné à voir, à sentir, à goûter, c'est ce qui s'entend aussi. Et depuis les années 70, avec les travaux du Canadien Murray Schafer, on parle de paysage sonore. Et ces propos de Lily Jeté qu'on vient d'entendre, ils sont extraits d'un documentaire web de l'Office national du film sur l'écologie sonore, un documentaire dans lequel on peut visiter quatre paysages sonores, celui de la ville, de la banlieue, la nature et un ermitage aussi. Les segments sur la ville et la banlieue sont déjà en ligne. On peut voir et entendre ces portraits sonores qui sont signés Alexandra Guitté. Le 15 mai, la nature sera mise en ligne, puis l'ermitage en juin sur le site Internet du projet Écologie sonore.
Mais quand on fait de la radio, bien sûr, on est sensible à la richesse des paysages sonores.
On aime bien ça, nous.
Oui.
Mais pour nous, comme à peu près tout le monde, il en reste toujours à apprendre au sujet des interactions entre le son, les bruits et la vie. Et si on parle d'écologie sonore, c'est que tout se touche. Si le son ambiant change, les autres variables d'un environnement vont être affectées. Prenons nous, par exemple, nous pauvres humains, notre santé, elle est affectée par notre environnement sonore.
Oui, évidemment, avec tous les décibels qu'on reçoit dans les oreilles, hein, c'est pas étonnant.
Oui, mais on sera peut-être étonné de savoir que c'est pas seulement des oreilles dont il est question. Alors, pour parler des liens entre notre santé et notre environnement sonore, j'ai rencontré Tony Leroux. Il est professeur agrégé à l'École d'audiologie et d'orthophonie à l'Université de Montréal. Et nous avons eu notre conversation à l'abri des sons importants.
Ici, on est dans une cabine insonore qu'on utilise en audiologie pour faire des tests où on essaie de mesurer les plus petits sons que les personnes sont capables d'entendre. Et ici, on veut justement s'isoler des sons de l'extérieur. Alors ici, c'est relativement calme. On est dans un environnement sonore de l'ordre de 25 ou 30 décibels.
Alors, notre environnement sonore affecte notre santé physique. On le sait, on le devine pour les oreilles. Mais si on regarde notre corps comme un écosystème, un des facteurs qui l'affecte, et en plusieurs endroits, c'est l'environnement sonore.
Oui, le son et le bruit plus largement, c'est un signal avertisseur de danger pour le corps humain. Dans notre évolution, en général, à l'époque, on vivait dans un environnement calme et les sons de l'environnement étaient là pour nous avertir de la présence de prédateurs ou de proies qu'on souhaitait attraper pour se nourrir. Donc, c'était des signaux qui avaient une signification très importante et une des significations, c'était de nous prévenir de certains dangers. Alors, le corps humain, à chaque fois qu'on présente un son qui est suffisamment fort, la réaction qu'on a, c'est de se préparer à fuir devant ce danger-là ou à le combattre. Donc, les hormones, l'adrénaline, la noradrénaline vont être sécrétées, vont faire en sorte que le sang va quitter les organes moins essentiels à la réaction de protection. Le sang va aller vers les muscles, va quitter la peau, va quitter le système digestif. Le cœur va devoir battre plus rapidement pour faire cette circulation sanguine-là. La respiration va s'accélérer pour qu'on puisse oxygéner ce sang-là. Donc, ces phénomènes-là, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la pression sanguine. Dans le monde de maintenant, ces réactions-là qui sont automatiques vont se produire toujours, sauf que ce n'est pas toujours parce qu'il y a un danger. C'est parce que le niveau sonore des villes, par exemple, a augmenté. Et maintenant, nos cœurs, notre pression artérielle est toujours un petit peu trop élevée. Et à long terme, ça mène à une augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires. On a des données maintenant épidémiologiques qui nous montrent qu'à des niveaux sonores au-delà de 60 décibels sur 24 heures, on voit apparaître un accroissement significatif des troubles cardiovasculaires. On parle d'infarctus, on parle d'ischémie cardiovasculaire qui prennent la forme d'un infarctus, mais aussi accident vasculaire cérébral. Et on pense qu'autour de 1 à 2% des infarctus et des accidents cérébrovasculaires sont dus à la contribution du bruit environnemental, particulièrement autour des grandes infrastructures routières ou des grands aéroports.
Nos très lointains ancêtres utilisaient l'ouïe pour repérer le danger, repérer les proies, et c'était dans un environnement qui était relativement calme. Maintenant que tout est bruyant autour, est-ce qu'on utilise moins notre oreille?
Je pense que c'est plutôt la signification qu'on donne à l'environnement. Maintenant, on se sert du bruit un peu pour s'isoler. C'est une façon de créer sa propre bulle, de contrôler complètement son environnement sonore. On n'est plus à la chasse, à la fuite du danger. On est plus à vouloir contrôler complètement son environnement sonore et à le façonner à son image. Presque, on est plus rendu dans une société de l'esthétique sonore, de l'esthétique acoustique, que l'utilisation des informations sonores pour assurer sa survie.
Effectivement, hein, comme le souligne Tony Leroux de l'Université de Montréal, on ne tend plus l'oreille pour entendre le mammouth, n'est-ce pas?
Oui. Et s'il en restait des mammouths, s'ils tendaient l'oreille pour entendre nous, le chasseur, ils auraient de plus en plus de mal à le faire parce que l'ambiance sonore, elle est beaucoup plus forte. On parle de bruit anthropique, de bruit généré par l'humain, les moteurs, les appareils électroniques, la densité de la population, tout ça, ça fait du bruit. Et très longtemps, progrès et bruit ont avancé main dans la main parce que l'industrialisation, l'automatisation, l'accélération, tout ça, oui, ça fait du bruit. Mais depuis quelques années, progrès et bruit ont divorcé. C'est-à-dire qu'on conçoit des avions, des automobiles, des engins qui sont beaucoup plus silencieux que ceux construits dans les années 60. Par contre, comme la quantité ne cesse d'augmenter, ben le bruit ambiant, il augmente lui aussi.
Et le pauvre mammouth aurait bien du mal à distinguer le méchant chasseur dans tout ce brouhaha, bien sûr.
Et ça, ça illustre le lien entre la santé de l'environnement, la santé des écosystèmes et le son. Pour plus de détails à ce sujet, j'ai rencontré Mathieu Régny, il est consultant en environnement. Il est responsable du contenu pour le documentaire web de l'ONF sur l'écologie sonore. Et nous avons parlé de biodiversité sonore dans la nature, en plein cœur du Mileland à Montréal. C'est un environnement sonore qui présente, vous allez l'entendre lui aussi, une grande variété, une grande sonodiversité.
Ça, c'est un moteur là, qui va nous déranger un petit peu. Ah, c'est une auto modifiée. Les écologistes sonores qui s'intéressent aux paysages sonores urbains, de banlieue ou de nature, un de leurs chevals de bataille, c'est la protection des sons qui sont en train de disparaître. Dans le milieu naturel, c'est l'ensemble de la polyphonie, ou de la, moi ce que j'appelle la biopolyphonie, la richesse ou la diversité des sons de la nature qui ensemble interagissent, qui est une ressource en soi, qu'il faut protéger. Alors dès qu'il y a un petit élément anthropique, de son anthropique, qui vient perturber ça, tout de suite, on a un monde différent, un monde changé, une érosion de la qualité sonore ambiante. L'ensemble des sons dans la nature interagissent entre eux puis se tiennent hein, pour former un tout. Et quand il y a un de ces éléments-là qui disparaît, c'est ça la biodiversité en fait, ben c'est l'ensemble de l'écosystème qui va en souffrir. Les bioacousticiens vous diront que chaque animal, par exemple, qui émet un bruit, un chant d'oiseau, le coassement des grenouilles, ils ont leur niche sonore. Et comme on a une niche écologique, il y a une niche sonore. Et si cette niche sonore-là est perturbée, bien, l'animal n'a plus sa place. Il y a des sons qui sont produits par certains animaux, les oiseaux, des batraciens, des sauterelles, pour délimiter leur territoire ou pour l'accouplement. Il y a des sons produits par d'autres, les chauves-souris, les marsouins, pour localiser leur proie ou tout simplement pour se guider. Hein. Les sons captés par les souris ou les cerfs, les cervidés, pour se prémunir ou se protéger des prédateurs ou de d'autres dangers. Alors ça, on a remarqué. Attention, vous allez avoir un chien qui... Oh!
Bonjour,
Salut le chien! Biodiversité urbaine. Au Canada, il y a des recherches qui ont été faites sur l'impact des motoneiges. Il y a des études en Colombie-Britannique qui ont été menées, d'autres à Terre-Neuve. Et puis, on a remarqué que, par exemple, des motoneiges passent à plusieurs centaines de mètres de lieu où se trouvent en hiver les cervidés, faisant en sorte que ben, la population baissait. En essayant de fuir le bruit, les mères gestantes perdent leur bébé. En Australie, une chercheure de l'Université de Melbourne, Kristen Paris, a prouvé que des grenouilles qui vivaient près d'infrastructures humaines, de routes par exemple, vont avoir des problèmes pour se repérer. Ça occasionne des problèmes dans leur accouplement. Ça fait baisser les populations de grenouilles. Alors les mâles qu'on entend normalement à 800 mètres de distance ont du mal à se faire entendre là, maintenant à moins de 14 mètres. Ben, ça, c'est un vrai impact du bruit sur l'environnement. Oui, ben ça fait partie du paysage. Des bruits de sabots dans le Myland, c'est rare qu'on entend ça, mais là, les policiers passent sur cheval, c'est sympathique. Ça fait partie de la polyphonie urbaine. Ça, c'est un terme qui s'applique aussi au paysage sonore urbain.
Mathieu Régnier, donc, qui est consultant en environnement et en biopolyphonie, probablement. La vraie nature n'est pas silencieuse, en fait, et elle a besoin de son, il faut le rappeler.
Oui, même si souvent on associe la nature à la grande paix ou au silence, oui. Ou presque, il existe même une initiative américaine pour trouver et pour préserver 3 cm carrés de silence en Amérique du Nord. One square inch of silence. C'est un projet d'écologiste sonore Gordon Hampton. Il est plus facile, en fait, de concevoir la préservation d'une rivière, d'un marais ou d'un édifice historique que la préservation d'un bruit. Mais ça existe. Parce que dans la vie, on ajoute des sons, mais on en perd aussi. Qu'est-ce qui est advenu, par exemple, du bruit des bouteilles de lait qui s'entrechoquent lorsque le laitier vient les livrer?
Ah, incroyable.
On a donc un patrimoine sonore, une espèce de santé sonore commune, et certains écologistes sonores militent pour qu'on préserve des morceaux de ce patrimoine-là. J'ai discuté de patrimoine sonore avec David Paquette, qui est doctorant sur le sujet à l'Université Concordia à Montréal. C'est chez lui, dans son paysage sonore à la campagne, dans les Laurentides, que je l'ai rencontré.
On est dans un champ entouré d'arbres. On est près de la grande route, près de la route principale, la 364. Donc, on peut entendre au loin les voitures que j'espérais confondre pas avec une mère parfois. Puis bon, il y a quelques oiseaux qui gazouillent, il y a mon chat qui qui se promène entre nos jambes. Alors ça nous donne quand même un environnement relativement équilibré, je crois.
Si on écoute ici les autos en arrière, ça ressemble un peu à la banlieue qui s'étend. Est-ce qu'on est en train de perdre une forme de diversité polyphonique?
Je pense que le trafic est surtout la source majeure d'uniformisation. Donc, à ce point de vue-là, je pense que oui. Je crois qu'il reste encore une certaine diversité, là, mais c'est certain qu'on a une forme d'uniformisation liée au trafic automobile. Je pense qu'il y a vraiment une transformation qui s'effectue. L'idéal sonore de la nature est quelque chose qui, jusqu'à un certain point, est en train de disparaître, mais qui est surtout remplacé, je pense, par une culture du son produit par l'humain. Comme toute forme de développement écologique, il se recrée des nouveaux équilibres, il se recrée des nouvelles relations. Puis moi, je suis peut-être plutôt du parti de ne pas trop être nostalgique, de considérer, oui, les changements sonores, mais d'être réaliste face à ces changements-là. C'est sûr qu'on ne reviendra pas à un univers pré-industriel où la voiture ne dominera pas, mais il faut peut-être se questionner justement sur notre réaction puis notre ajustement à ce nouvel environnement-là.
Par contre, il y a tout ce concept d'une richesse culturelle d'un patrimoine sonore. Est-ce qu'on a une santé sonore commune une histoire sonore à protéger?
Je pense que la valeur humaine s'est perdue au profit d'une valeur un peu plus mécanique. Bon, encore, on revient encore une fois au trafic. Si je marche dans les rues de Montréal, par exemple, je pense qu'une des choses qu'on a perdues, c'est l'espace, ce qu'ils appellent l'horizon acoustique. Ici, on peut entendre des sons, on peut entendre des oiseaux qui sont quand même à 20, 30 mètres, 40 mètres, peut-être plus loin encore. Le trafic est relativement loin aussi. Le trafic est à peut-être 200, 300 mètres. En ville, notre horizon acoustique serait probablement plus limité. On entendrait les sons qui sont vraiment près autour de nous parce que le niveau ambiant général est plus élevé. Puis là, on a un chat qui fait de la pollution sonore avec le fil du micro. Je pense que c'est une chose qu'on a perdue, c'est l'espace, qui s'est peut-être rétréci d'une certaine manière. Puis la réaction souvent à ça, ça va être d'utiliser les écouteurs, d'inverser ça en se disant, bien, si j'écoute un tel type de musique ou si j'écoute des podcasts dans mon iPod, je prends le contrôle de mon environnement puis je l'élargis comme je veux, dans le fond. Il y a ce mouvement-là vers la virtualisation de l'espace sonore qu'on peut remarquer, oui.
David Paquette est doctorant en communication à l'Université Concordia à Montréal, un espace sonore virtuel, artificiel, conscrit avec nos écouteurs sur les oreilles. On est quand même, Sophie André, loin du chant des grenouilles au printemps.
Oui, alors ouais. Si vous avez envie de poursuivre la réflexion sur les liens qu'il y a entre le chant d'amour des grenouilles au printemps et la symphonie des sonneries de cellulaire, sur par exemple aussi la cohabitation entre les passionnés du silence et les passionnés des voitures modifiées, le documentaire Écologie sonore de l'ONF est en ligne et il va s'étoffer encore au cours des deux prochains mois. Vous trouverez le lien pour y accéder sur notre site Internet.
Merci beaucoup, Sophie André.
Merci.
Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Je reçois aujourd'hui en grande entrevue des Années-Lumière une scientifique qui aime à la fois la recherche fondamentale et les applications de la recherche et qui travaille sur une question qui nous concerne toutes et tous, le stress. Cette chercheure travaille en neurosciences, elle est directrice du centre de recherche Fernand Seguin à l'hôpital Louis H. Lafontaine à Montréal. Elle s'appelle Sonia Lupien. Bonjour Madame Lupien.
Bonjour.
Alors, on va commencer par le fondamental et d'abord on va faire un petit rappel de la physiologie du stress. Il y a un événement qui stresse l'individu. Qu'est-ce qui se passe dans son organisme, dans son corps?
Oui, en effet, très tôt dans la recherche scientifique, on s'est rendu compte que la meilleure mesure du stress était la réponse du corps parce que le corps va toujours générer une réponse de stress lorsqu'on détecte une menace. Donc, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que notre cerveau, c'est un détecteur de menaces, ce que nous, on appelle un stresseur. Alors, le cerveau n'a pas été créé pour écrire un texte gentil sur le coin d'une table. Il va le faire jusqu'à ce qu'il y ait une menace. Et quand il y a une menace, le cerveau va tout arrêter et il va porter toute son attention sur la menace pour vous aider à survivre. Alors, dès que le cerveau détecte une menace, il va produire une première hormone qui arrive de l'hypothalamus, donc qui est la glande maîtresse qui est localisée dans
le cerveau,
cerveau
oui. Mm-hmm.
Qui va faire ce qu'on appelle en anglais du corticotropin releasing factor, en français,
oui.
L'acronyme plus parce que les termes sont trop
longs. Oui.
C'est le CRF, qui lui va aller activer d'autres cellules dans la glande pituitaire qui, elle aussi, et dans le cerveau, ce sont les deux, en fait,
sont
là, parce qu'ensuite, ça se passe en bas du cou, qui va produire de l'ACTH. Et ensuite, l'ACTH va partir dans la circulation sanguine. Les hormones, contrairement à d'autres molécules du corps, ce sont des molécules qui se promènent dans le sang. Alors, elles se promènent dans le sang et vont aller activer des glandes, selon leur nature, pour avoir un effet sur le corps. Dans le cas de l'ACTH, donc, qui est une hormone qui est reliée au stress, elle va aller sur les glandes surrénales, qui sont deux petites glandes localisées au-dessus des reins, d'où le terme surrénal.
Sure.
rénale,
et
oui.
qui mm-hmm. vont aller activer la production de glucocorticoïdes. Le glucocorticoïde, on appelle ça le cortisol chez l'humain. Ça peut sonner une cloche chez les auditeurs, le cortisol, parce que ça sonne la cloche du cortisoneux. Le cortisoneux est un anti-inflammatoire. Si on a mal au dos, on peut aller recevoir une injection de cortisone. C'est la même chose. Mm-hmm. Alors, lorsque les glucocorticoïdes sont produits, ils sont produits pour une raison, pour vous permettre de faire les seules choses que vous pouvez faire devant la menace, puisque oui. votre cerveau vient de détecter une menace. Vous combattez ou vous fuyez. Dans les deux cas, vous avez besoin d'une seule chose, c'est de l'énergie. Et ce sont ces hormones-là qui vont vous donner l'énergie de combattre le mammouth, le tuer et le manger dans le temps de la préhistoire, ou partir à courir s'il est trop gros, et vous voici ayant survécu à la bête. C'est un superbe système, parce que bon, il y a le glucocorticoïde qui est produit quelques secondes avant le glucocorticoïde. Il y a ce qu'on appelle les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, qui, elles, sont le guerrier. Vous savez quand vous produisez de l'adrénaline. Vous le sentez. Si vous êtes stressé, je vous demande comment le savez-vous, vous allez dire, ben, j'ai chaud, j'ai le cœur qui bat, je tremble. Et ce sont toutes des manifestations qui sont induites par la noradrénaline qui vous dit, fais quelque chose, il y a un stress, bon, bouge.
Respire fort pour pouvoir plus
d'oxygène. Et quand on regarde toutes les réactions, c'est absolument superbe. C'est-à-dire, la première chose, si dans une grande réaction de stress, vous regardiez le bout de vos doigts, il serait blanc. Pourquoi? Parce que tout le sang va se retirer de l'extrémité des membres pour aller vers le cœur et les poumons pour avoir le plus d'énergie possible. C'est ça qu'on fait. Si vous regardez le poil de vos bras, s'il en reste, on en a moins que les Néandertals, il va se lever. Il va se lever. Pourquoi? Parce que dans le temps, on était beaucoup plus poilu, dans le temps des mammouths, et donc, on avait l'air plus gros. On avait l'air... Et si vous regardez un chien, par exemple, lorsqu'il a peur, un chien en rencontrant un autre chien, le poil sur le dos se redresse.
Et il devient énorme.
Un chat, le meilleur exemple.
Un chat, oui.
Alors, les pupilles aussi vont se dilater pour laisser beaucoup de lumière entrer, pour être capable de voir mieux. Et c'est une réaction adaptative absolument phénoménale qui a lieu.
Donc, un mécanisme, des mécanismes formidables. Ça marche bien, quoi.
Oui, et ça, c'est seulement la première partie de l'histoire, c'est-à-dire qu'on avait bien compris l'importance de ces hormones-là pour vous donner l'énergie de survivre, puis survivre à ces menaces-là, et vous voici, on s'est adapté. Mais l'histoire encore est devenue encore plus intéressante au niveau de la physiologie du stress dans les années 68, donc plusieurs années après que Cellier ait décrit en 36 cette réponse-là. En 1968, on s'est rendu compte que les mêmes hormones que vous produisez pour vous donner l'énergie quand vous êtes stressé de combattre ou de fuir, à l'intérieur d'une période de 8 à 10 minutes, elles vont réaccéder au cerveau. Avant, on pensait que les hormones qui sont produites en bas du cou, ça restait là. Mais on s'est rendu compte que ça réaccédait au cerveau. Et on s'en est rendu compte à cause de la cortisone. La cortisone qui a été découverte en 1949 pour ses effets anti-inflammatoires. On en a donné de larges doses à beaucoup de gens dans le temps, en 1949. Et on s'est rendu compte que si vous en donnez trop, ça n'arrivera plus aujourd'hui, réglé. Ça va donner lieu à ce qu'on appelle une psychose stéroïdienne. Alors, les gens qui en prenaient trop pendant trop longtemps vont développer des troubles de mémoire, des hallucinations, et ça peut même aller jusqu'à une psychose.
Et là, on commence à faire des liens avec les effets du stress.
Ben là, le premier lien que les chercheurs font, disent, pour donner lieu à une psychose, il faut bien que ça réaccède au cerveau. La psychose, ça ne se développe pas dans le foie, ça. Alors, cette hormone-là qu'on croyait ne jamais pouvoir accéder le cerveau, parce que c'est une hormone, c'est en bas du cou, ça reste là. C'est pas vrai.
Donc, dans
le cerveau, il y a des récepteurs. On s'est mis à les chercher, on les a trouvés. Et là, c'est devenu intéressant parce qu'on s'est rendu compte que la même hormone que vous produisez pour vous aider à tuer le mammouth ou partir à courir, à l'intérieur d'une période de 8 à 10 minutes, retourne au cerveau. Et lorsqu'ils réaccèdent au cerveau, ils ont une préférence marquée pour les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage et la mémoire et dans la régulation des émotions.
Vous avez vu le mammouth et vous allez vous en rappeler.
Voilà. Si vous voulez survivre, vous devez non seulement mobiliser assez d'énergie pour partir à courir si le mammouth est trop gros, mais vous devez aussi vous souvenir de plus jamais aller là. Parce qu'il y a un mammouth. Et voici ce superbe système en action qui nous a permis de
survivre. Vous aimez beaucoup les mammouths, c'est d'ailleurs le symbole de votre centre de recherche sur le stress humain. Et vous avez d'ailleurs, alors on vient de le dire, d'évoquer la mémoire, l'apprentissage, la mémoire. Et d'ailleurs, vous avez commencé d'ailleurs à travailler, au départ, vous travaillez beaucoup sur stress et mémoire. Le stress qui est à la fois favorable à la mémoire, on se rappelle du mammouth, et qui en même temps peut avoir des effets négatifs sur la mémoire, et notamment sur une structure du cerveau qu'on appelle les hippocampes, qui sont un petit peu, appelons ça, les machines à fabriquer des souvenirs. Et on disait, vous avez découvert, bravo, que le stress provoquer une atrophie, un excès de stress, une atrophie des hippocampes, c'est bien ça?
Ça venait du modèle animal parce qu'en 68, quand on s'est rendu compte que le cerveau avait des récepteurs pour répondre au cortisol, on s'est rendu compte que la région qui en avait le plus, c'était l'hippocampe. Mm-hmm. On savait que cette région, comme vous l'avez souligné, était impliquée dans la mémoire. Alors, l'hypothèse était simple. Vous avez une exposition chronique à ces hormones de stress-là, ça accède au cerveau, ça tue 2-3 neurones dans l'hippocampe, vous avez des troubles de mémoire et basta. Et c'est ce qu'on a démontré en 1998, où on a démontré que chez une population de personnes âgées, à peu près 30% vont produire trop d'hormones de stress. Et cette hyperproduction-là d'hormones de stress est associée à la fois à des troubles de mémoire et à une réduction du volume de l'hippocampe, une atrophie. Oui. Et donc, on avait, si vous voulez, confirmer l'hypothèse de la neurotoxicité. Les hormones de stress seraient neurotoxiques. 10 ans plus tard, je me suis rendu compte que je m'étais trompée.
Vous avez découvert que votre découverte n'était pas une découverte.
C'est ça. Alors, j'ai quand même découvert quelque chose.
Vous êtes trompée comment? Pourquoi?
Parce qu'on a sauté trop vite. Je me souviendrai toujours, puis je vous le raconte, c'est une belle anecdote. Je suis à New York et c'est la première fois, on a montré l'atrophie hippocampique en vieillissement, en dépression, des gens qui sont très, très sensibles au stress. Et c'est la première fois qu'on démontre aussi une atrophie de l'hippocampe chez les gens qui souffrent d'un désordre d'origine post-traumatique. Alors écoutez, on est tellement contents. À la Rockefeller University, on décide de faire un gros congrès.
Tout va ensemble.
Où on va tous aller montrer ça. Et on appelle ça « Can stress shrink the brain? » Est-ce que le stress peut vous ramener et vous réduire le cerveau? Et pendant toute la journée, on est tous là à se péter les bretelles en bon québécois. Voici les effets neurotoxiques. Il y a un type qui s'appelle Roger Pittman qui est dans le fond de la salle et qui dit pas un mot et qui, à la fin de la journée, lève la main et qui dit, vous savez, c'est une corrélation. Une corrélation, c'est que vous avez deux variables qui sont en association, mais ça veut pas dire qu'une cause l'autre.
Il dit, vous prenez pour acquis... corrélation et relation de cause à effet, n'est-ce pas?
On l'avait appris en stats 101, mais on l'avait oublié. Et il dit, vous dites que le trauma, dans le cas du désordre d'origine post-traumatique, cause l'atrophie de l'hippocampe. Mais l'inverse aussi serait possible. Serait-il possible que les hommes qui sont rentrés dans la zone de guerre avec un plus petit volume hippocampique pour commencer,
sont ceux
qui ont développé un désordre d'origine post-traumatique
devant
leur
montreur. Question embêtante.
Et en fait, il y avait un argument de son côté, c'est que vous avez 100 personnes qui vivent le même trauma.
Qui vont à la guerre, par exemple.
Peu importe. Mm-hmm. Il y en a juste 28 qui vont développer un désordre d'origine post-traumatique. Pourquoi pas 100, si c'était si simple? Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que ces 28-là ont en commun? Et vous savez, à cette journée-là, puis juste parce que l'histoire, elle est absolument fabuleuse, écoutez, si on avait eu des tomates, le pauvre Roger aurait été aspergé parce qu'on n'a jamais voulu comprendre ce qu'il voulait dire. On disait c'est trop.
C'était vraiment un trouble fait à la fin du beau congrès.
Et ce qui représente un bon chercheur, c'est la persévérance. Alors, Roger, on est en 95, part, et je le revois 7 ans plus tard dans un des meilleurs journaux scientifiques, Nature, et qui publie cet article-là. Et je vous le résume très rapidement. Et quand je suis allée manger avec lui après, j'ai dit, est-ce que tu l'as écrit volontairement de cette façon-là, chronologique? Il dit, oui, tu peux être certaine.
Oui.
Alors, il prend, admettons, les chiffres sont pas importants, il prend 100 hommes qui sont allés au Vietnam. Mm-hmm. Disons que 50 ont développé un désordre d'origine post-traumatique et les 50 autres l'ont pas développé. Il mesure le volume hippocampique des deux groupes et il montre, bien sûr, que les hommes qui ont développé le désordre d'origine post-traumatique ont une atrophie. Mm-hmm. Alors, il dit, voilà, nous confirmons l'hypothèse. Ah, oui. Et moi, je me souviens de lire l'article, de dire, bon, il a finalement compris. Et il poursuit l'étude en disant, l'affaire est que tous ces hommes-là, écoutez bien, là, comment il a fait pour trouver ça, là, tous ces hommes-là avaient un frère homozygote qui n'était pas allé à la guerre.
Donc, un jumeau.
Homozygote qui partage
tout à fait semblable.
Qui était pas
et donc,
à la
il est allé voir les hippocampes des homozygotes.
Ils sont pareils comme leurs frères.
Ils ont des petits hippocampes.
Voilà. Et donc, ça peut pas être la guerre. Ils sont pas allés à la guerre.
C'est la naissance. C'est les gênes.
C'est les gènes et l'environnement. Parce que ce sont deux frères qui avaient grandi dans le même environnement. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est maintenant, on appelle ça l'hypothèse de la vulnérabilité. Mm-hmm. Ce qu'on pense, c'est que si vous grandissez dans un milieu familial adverse, où il y a beaucoup de stresseurs, les effets neurotoxiques vont empêcher votre hippocampe de se développer. Mm-hmm. Et le fait de vieillir avec un petit hippocampe va vous rendre plus vulnérable
à développer. Et le jour où vous avez vraiment un gros stress...
Là, ça va tomber, vous allez développer un trouble de santé mentale. Et donc, la même donnée vue de deux points de vue complètement différents.
Intéressant. Alors, on va faire une pause de quelques secondes, Sonia Lupien, pour pouvoir revenir justement aux applications un peu de toutes ces recherches et de toutes ces découvertes-là. Je suis toujours avec Sonia Dupien, chercheure en neurosciences, directrice du Centre de recherche Fernand Seguin à l'hôpital Louis-H.-Lafontaine à Montréal, spécialiste du stress. Et vous êtes intéressée aux applications de votre recherche. Vous avez beaucoup travaillé, par exemple, sur le stress chez les enfants. Vous vous intéressez à cette question-là. Vous avez montré que oui, les enfants aussi sont stressés. C'est une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Hein. On disait les enfants, ça va bien, la belle vie des enfants.
Parce que la définition populaire du stress, c'est la pression du temps. Et on se dit, les enfants ont tout le temps, comme les personnes âgées à la retraite, ils sont pas stressés. C'est un mythe, c'est pas ça la définition du stress. Mm-hmm. Ce qu'on sait de la recherche scientifique, c'est qu'il y a quatre caractéristiques d'une situation qui vont induire une réponse de stress, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, mm-hmm. l'âge que vous avez. Et ces caractéristiques-là, elles sont additives. Donc, une situation ne doit pas nécessairement comporter les quatre caractéristiques pour induire une réponse
Mais
de stress.
Mais plus vous en avez, plus...
pire c'est.
Alors, c'est quoi les quatre?
Là, c'est la recette. Pour qu'une situation génère une réponse de stress, elle doit être nouvelle. Elle doit être imprévue ou imprévisible. Vous devez avoir l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur la situation et elle doit être menaçante pour votre personnalité. Par exemple, quelqu'un qui remet en question votre capacité de bien faire votre travail devant des amis à la machine à café.
Oui. Hein,
le petit feeling que vous avez, là, c'est ça une réponse
oui.
à stress. Et quand on a commencé à penser au volume, le développement, tout ça, je me suis dit... Les enfants aussi sont stressés parce que les enfants aussi font affaire à des facteurs de nouveauté, d'imprévisibilité. Quand ma fille est rentrée à la maternelle, c'était nouveau, imprévisible, elle n'avait pas l'impression d'avoir le contrôle. Elle avait une réponse de stress.
Mm-hmm.
À l'an 2000, je me suis posé la question aussi à savoir si la pauvreté chez les enfants pouvait induire une réponse de stress et mener à la production d'hormones de stress élevées. Et comme on l'a vu dans la première partie de votre émission, c'est pas une bonne idée de trop en faire pendant trop longtemps. Et donc, on a fait une étude chez 400 enfants où on a mesuré les hormones de stress à ce moment-là dans la salive. C'est très facile de demander à des jeunes de 6 ans de cracher, mais c'est plus dur de les arrêter. Là.
Et, c'est plus stressant pour le
chercheur. Oui, c'est pas ça que je leur fais. Et on a montré que dès l'âge de 6 ans, les enfants riches produisent beaucoup, beaucoup moins d'hormones de stress que les enfants pauvres.
Ça, donc, c'est mesuré, donc les hormones,
dans
le
la
cortisol,
salive,
par exemple.
Oui, la même chose.
Mm-hmm.
Et on a montré une autre chose aussi, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. On avait des enfants de 6, 8, 10 ans, donc à l'école élémentaire jusqu'à la sixième année, puis des enfants de 12, 14, 16 au secondaire, 1, 3, 5. Et on a montré que lors de la transition de l'école élémentaire à l'école secondaire, tous les enfants, riches, pauvres, peu importe, avaient une augmentation faramineuse des hormones de stress. Et
parce
ça, c'est
que c'est vraiment un gros passage.
Souvenez-vous, quand vous êtes
arrivé
en sixième,
moment.
Vous êtes le roi de l'école, il n'y en a pas de stress. Là. C'est pas nouveau, c'est pas imprévu. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée à la polyvalente, et il y a des enfants qui sont pas outillés pour négocier ça. Et c'est souvent... lors de la transition de l'école élémentaire à l'école secondaire, qu'on va voir les premiers troubles de conduite chez l'enfant, les idées suicidaires, des choses comme ça.
Mm-hmm.
La plupart des éducateurs puis des parents vont attribuer ça à l'âge pubère. Mais nous, on s'est dit, ouais, mais si en plus, il n'y avait pas un facteur de vulnérabilité. Et j'ai laissé dormir ce résultat-là, on l'a publié en 2001, pendant 5 ans. Et étant moi-même mère de 2 enfants et...
Là, vos enfants arrivent au secondaire.
Non, pas encore. Je me suis pris d'avance. J'aime pas l'imprévisibilité.
Oui.
Mais en même temps, c'est important de savoir ça. C'est qu'on peut être chercheur, justement, fondamental. Et à un moment donné, en vieillissant, en tout cas, je me suis dit, à quoi ça sert de tout faire ça si je fais rien pour intervenir?
Oui.
Je vois pas qui va le faire puisque j'ai 20 ans en arrière de la cravate. Comment? Il faut faire de quoi, même si c'est pas parfait. Alors, on a décidé de faire le programme Déstress et Progress. On l'a monté 2 ans avec les conseillers scolaires, les enfants, tout le monde, finalement, s'est mis de la partie. Et on a mis sur pied ce programme-là où on éduque, finalement, tout ce que je vous dis, peut-être avec des jeux de rôle, etc., chez les jeunes qui font la transition entre l'école élémentaire et l'école secondaire. On l'a testé l'année dernière chez 500 enfants. À ce jour, les données préliminaires montrent que ça va diminuer, par exemple, aussi les symptômes de dépression chez les enfants, ce qui fait du sens parce qu'en leur enseignant le stress... on leur donne le contrôle et on leur donne la façon de chasser le mammouth. Et on est des chasseurs dans l'âme. Mais il faut juste savoir où est-ce qu'il est puis si on a la bonne
Alors, ça
lance.
Ça s'appelle déstress et progresse.
Oui, déstress et progresse.
Et ça, c'est déjà dans les écoles?
Non, on l'a pas nécessairement tout de suite implanté parce que voici la chercheure qui revient de l'assaut.
Je vais mesurer
s'il est efficace. Il n'est pas question que je mette quelque chose sur le réseau si c'est pas efficace. Alors, pendant 1 an, on a mesuré 6 fois durant l'année scolaire les hormones de stress, 6 fois des questionnaires de dépression. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'ados qui sont en détresse. C'est un message. Moi, j'avais ouvert une boîte de Pandore. Ça m'a vraiment, littéralement, tellement étonnée.
Ouais.
Le niveau de détresse chez les adolescents. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est très stigmatisé aussi. Et c'est là qu'on a fait plein d'autres choses, comme le site web qui s'appelle La santé, c'est mental, pour aller chercher les ados, dire, si c'est pas stigmatisé, tu vas en parler, mais il faut, ceux qui souffrent en silence, c'était assez phénoménal. Et on a mesuré plein de choses. Évidemment, on n'a pas fini d'analyser les résultats, mais dès qu'on va montrer que c'est efficace, moi, je pense que c'est efficace peut-être pour un sous-groupe.
Oui,
si
peut-être.
C'est le cas, tant mieux. C'est lui qu'on ciblera. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas démontré l'efficacité valide scientifique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le stress.
Oui.
Et on sait jamais si c'est valide ou pas. Et j'ai pris le pari de jamais mettre sur pied quelque chose
parce
que j'ai
pas validé.
Parce
que c'est un domaine où n'importe qui peut s'improviser un peu.
J'ai toujours promis de ne pas faire ça. Donc, si Destress ne fonctionne pas, Destress va mourir de sa belle-mère. C'est correct.
Oui.
On fera autre chose. Mais à ce jour, en tout cas, on voit que ça diminue les scores de dépression d'à peu près 10 %. Donc, déjà là, il y a quelque chose
c'est
de positif.
C'est quand même déjà bien, oui. Pour les adultes, pour les personnes âgées aussi, est-ce que la recherche va quelque part et donne quelque chose de solide, de concret? Concrète, mesurable?
J'ai une belle histoire parce qu'à un moment donné, j'ai eu un téléphone d'un parent, d'un enfant qui faisait des stress. Et c'était un homme d'affaires très occupé, très stressé. Et il me raconte au téléphone, il me dit, écoutez, je revenais d'une journée très stressante, je racontais ma journée à ma femme et mon adolescent était assis à la table, qui d'habitude ne parle mot, puisque c'est un adolescent avec son manque d'humour. Et l'acronyme qu'on avait trouvé pour les jeunes, c'était « spin ton stress ». Et on s'est dit, on leur a dit, quand tu vas sortir d'ici, tu vas être capable de spinner ton stress.
Ouais.
S pour sens du contrôle faible, P pour personnalité menacée, I pour imprévisibilité, puis N pour nouveauté.
Ouais.
Tu vas être capable de déconstruire et de le reconstruire. Puis ton mammouth, tu vas savoir
qui est où. Comprendre.
Ah, tellement, c'est le but. Alors, bref, le papa me raconte qu'il raconte sa journée à sa femme et son ado silencieux est là. Et à un moment donné, l'ado ouvre la bouche et dit à son père, mais non, c'est très, très simple, je vais te le spinner, moi, ton stress. Et il commence à lui expliquer. Et le monsieur, ça l'avait énormément étonné. Il me dit, quand il racontait, je comprenais.
Oui.
Alors, avez-vous l'intention de le mettre dans le milieu de travail? Et j'y ai pensé. Je me suis dit, dans le fond, le message n'est pas différent, la façon de le donner.
Oui.
Et donc, on a eu une petite subvention de la Banque nationale à travers la fondation de l'hôpital. On est en train d'adapter le distress pour l'extranet des compagnies. Parce que vous devez l'apprendre, on ne fera pas ça. Moi, je ne passerai pas ma vie à faire des conférences.
Bien sûr, ça peut aller
ça
quand même.
Ça va fonctionner, oui, pour les parents de ces jeunes-là. Parce qu'on a eu un effet de débordement de l'autre côté. Et c'est ce que je voulais entendre. Je voulais qu'un jeune puisse arriver. Et évidemment,
et il arrive jour, que les jeunes apprennent quelque chose à leur parle.
Je pense qu'il avait gagné en crédibilité.
Un petit mot, Sonia Lupien, en terminant. Bon, vous êtes donc une carrière de recherche à la fois fondamentale et appliquée, on vient de le voir, l'application vous intéresse beaucoup, mais au point de vue fondamental, une grande question, est-ce que vous aimeriez régler comme mystère autour du stress, ça serait quoi si on le disait en quelques mots?
Ce matin, j'avais une femme dans mon laboratoire qui faisait une présentation, c'est une clinicienne chercheure dans les centres jeunesse du Québec. Et les gens qui travaillent dans les centres jeunesse ne comprennent pas pourquoi les enfants sont si hyper vigilants, agressifs, avec des troubles de l'attention. Je pense que la recherche sur le stress a une réponse, mais il faut l'étudier. Puis il faut que j'ai dit à cette femme un jour, j'irai passer un an dans un centre jeunesse, puis je veux juste m'asseoir puis voir. Parce que je lui ai dit, ce que vous appelez des désordres, votre cerveau, il appelle ça une adaptation. L'enfant qui grandit dans un milieu familial adverse devient un expert pour détecter la menace. Parce que s'il veut survivre, il doit reconnaître quand papa arrive à la maison et que le muscle de sa mâchoire se fait aller de gauche.
Oui.
Ça, là, il est mieux de s'en aller dans sa chambre parce que ça veut dire une claque en arrière de la tête.
Ah, oui.
Et c'est ça qui lui a permis de survivre. Et cette façon-là dont ce cerveau s'est réglé pour l'aider à survivre est mésadapté dans nos sociétés. Donc, vous le mettez dans une famille d'accueil qui est très aimante. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est de comprendre ça et de prendre toutes les connaissances que je vais chercher depuis 20-25 ans pour les appliquer chez ces enfants-là à un moment donné, parce que c'est là que le cerveau est plastique. Et c'est là qu'il faut jouer, et il faut que les centres jeunesse, les travailleurs sociaux, les cliniciens laissent rentrer les chercheurs. Je pense vraiment que la recherche fondamentale a beaucoup, à ce jour, a beaucoup à apporter à ce type de population-là.
Un beau programme, effectivement. Sonia Lupien, je vous remercie beaucoup d'être venue en studio. Je rappelle donc que vous êtes directrice du Centre de recherche Fernand Seguin, directrice aussi de votre bébé, comme vous l'appelez, le Centre de recherche sur le stress humain, dont le symbole est le mammouth, qui a été une vedette de cette interview. Merci beaucoup, Sonia Lupien.
C'est moi qui vous remercie.
L'auteur de la semaine, il s'appelle Lucas Salomon. Il a écrit « Cerveau, drogues et dépendance » aux éditions Belin pour la science. Il est professeur de sciences. Sa thèse de doctorat en neurosciences portait sur la drogue et ses effets sur le cerveau. Hugues de Roussan s'est entretenu avec lui. Dans son livre, il nous raconte que toute absorption de drogue stimule la production de la molécule du plaisir, la dopamine, dans une région du cerveau appelée le circuit de la récompense. Il décrit aussi comment les drogues peuvent provoquer un déséquilibre du cerveau, modifier son fonctionnement, créer une dépendance. C'est avec le regard du scientifique et non celui du juge que Lucas Salomon explore les méandres du cerveau et de son fonctionnement face au plaisir.
Pourquoi je l'ai écrit? Tout simplement parce que, avant d'être en poste cette année comme professeur, j'ai été chercheur dans le sens où j'ai fait un troisième cycle, une thèse, un doctorat de neurosciences sur les drogues et les dépendances. Et que le jour de la soutenance, c'est-à-dire de l'oral de thèse, un des membres du jury m'a dit en souriant que c'était très bien les 10 premières pages du manuscrit, mais que c'était des histoires de drogue et que c'était pas de la science, quoi. Or, c'est les 10 seules minutes quand j'ai parlé de ça où tous les gens du public ont compris. Et après, quand je suis arrivé sur le sujet en lui-même, évidemment, que seulement les spécialistes pouvaient comprendre. J'ai trouvé ça dommage et je pense que c'est un sujet qui est médiatiquement et socialement très important et qu'il faut diffuser scientifiquement. Quand je fais des conférences à quel que soit le public, quel que soit l'âge du public, je commence par dire que je ne suis ni juge, ni médecin, ni policier, ni psychologue, que moi je suis scientifique de formation et que c'est pour ça que j'ai un point de vue un petit peu différent, qui est assez simple et qui se base vraiment non pas sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, mais plutôt sur les effets, c'est-à-dire sur les résultats scientifiques connus sur les drogues et leurs effets.
On parle des drogues, mais on pourrait peut-être essayer de définir c'est quoi une drogue?
Justement, cette définition est très difficile à trouver. La drogue, c'est normalement une substance étrangère, exogène, hors de l'organisme qu'on prend, qu'on ingère donc, et qui va entraîner des réactions physiques et psychologiques de l'individu et mener à une dépendance. Alors la notion de dépendance est aussi très complexe puisque il y a aussi autant de notions de dépendance que de gens qui l'utilisent, mais de manière assez simple pour les gens qui travaillent avec les toxicomanes, la dépendance c'est vraiment le moment où la prise de produits et sa recherche prennent le pas dans la vie de l'individu sur toutes les autres activités personnelles, sociales et professionnelles. C'est-à-dire le temps passé à la recherche du produit et à sa prise va, entre guillemets, passer avant tout le reste. Maintenant, c'est vrai que les drogues, c'est un petit peu plus compliqué que ça, tout simplement parce qu'il y a maintenant des dépendances en substance et que cette notion est à élargir, vu que les gens qui sont, je ne sais pas moi, addicts aux jeux vidéo, par exemple, ils ne mangent pas les manettes. Et pourtant, cette activité prend le pas sur toutes les autres activités aussi de la personne.
Les drogues, toutes sans exception, vous dites dans le livre qu'elles ont des effets sur le cerveau et qu'elles stimulent ce qu'on appelle le circuit de la récompense.
Oui, effectivement, toutes ces drogues sont ce qu'on appelle des psychotropes. Psyché, c'est l'âme, et trope, c'est justement changer, modifier. Donc elles modifient l'âme, alors de manière plus pragmatique, on va dire qu'elles vont changer l'activité et le fonctionnement normal de notre système nerveux, et plus précisément notre cerveau pour le coup. Et c'est vrai que de manière directe ou indirecte, même si ces substances se fixent à différents endroits du cerveau suivant la substance considérée, c'est-à-dire la cocaïne ne se fixe pas exactement au même endroit que le tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif du cannabis par exemple, pour autant, le changement de fonctionnement va aboutir directement ou indirectement à la stimulation de ce qu'on appelle le circuit de la récompense, c'est-à-dire que c'est un circuit qui est activé dans toute situation agréable pour l'individu, autant des situations gustatives, d'aller par exemple manger quelque chose d'agréable dans un restaurant, que des situations sexuelles, que des situations amicales, etc. Donc tout ce qui est agréable pour l'individu active ce système. La grande caractéristique de toutes ces drogues, c'est que artificiellement, elles vont activer ce système et en fait prendre le pas sur les expériences naturelles de l'individu.
Et lorsque ce système est activé, il y a une augmentation d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Cette dopamine-là, comment agit-elle?
Cette dopamine, c'est un neurotransmetteur qu'on a appelé pendant des années, qu'on continue à appeler le neurotransmetteur du plaisir, puisque en fait, plus on trouve de dopamine dans certaines zones du cerveau, plus l'individu ressent un plaisir intense. En fait, c'est vraiment une rétribution pour l'individu, exactement comme quand on dresse un animal et qu'on lui donne, je ne sais pas, une récompense, une croquette, un sucre. Les actions ayant entraîné ce sucre ou cette croquette vont être réitérées de manière de plus en plus fréquente par l'animal pour recevoir la récompense. Ben, c'est la même chose qui se passe, mais à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire que l'homme va avoir inconsciemment ou consciemment envie de refaire les mêmes actions pour obtenir cette dopamine, cette élévation de dopamine dans son cerveau. Donc en fait, c'est des conditionnements hein, d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire qu'on apprend à se faire plaisir.
Est-ce que justement cette recherche du plaisir qu'on ressent lorsqu'on consomme de la drogue, est-ce que ça amène forcément une dépendance et comment cette dépendance s'installe?
Est-ce que ça amène forcément une dépendance? Non, pas forcément. Il y a certaines drogues qui entraînent plus facilement une dépendance que d'autres. On évalue deux types de dépendance qui sont la dépendance physique. La dépendance physique, elle a été surtout mise en avant avec l'utilisation des opiacés, morphine, héroïne. Cette dépendance physique, c'est lors de l'arrêt de la drogue, l'individu qui prenait usuellement de la drogue, qui a plusieurs symptômes de manque, donc de douleur physique. Cette dépendance physique, elle est d'autant plus forte que ces symptômes sont grands, c'est-à-dire des nausées, des vomissements, un arrêt du sommeil, une perte de l'appétit, une piloérection, enfin plein de choses qui sont assez désagréables. Et une dépendance psychologique, la dépendance psychologique, c'est le fait d'avoir une envie irrépressible de reprendre du produit ou de rechercher du produit. Donc ces deux dépendances, elles ne sont pas du tout les mêmes suivant les substances. Et j'aurais tendance à dire que les pires substances, les pires drogues sont les drogues légales, entre guillemets. C'est-à-dire que en termes de dépendance physique et psychologique, l'alcool et le tabac sont en première place. Ensuite, les stimulants comme les amphétamines, la cocaïne ont des dépendances beaucoup plus psychologiques que physiques, contrairement aux opiacés qui ont des dépendances plus physiques que psychologiques. Donc ça dépend un petit peu. Certaines drogues entraînent beaucoup moins de dépendances que d'autres. Évidemment, la plus médiatique et la plus contestée, c'est le cannabis. Moi, en tant que scientifique et vu les résultats scientifiques, j'ai tendance à dire que les dépendances induites par cette drogue sont les plus faibles connues dans les grandes drogues consommées. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas et qu'elle ne modifie pas le cerveau et qu'elle n'a pas d'autres effets négatifs, on est bien d'accord. Néanmoins, c'est vraiment drogue dépendante, c'est-à-dire que ça dépend de la substance.
On connaît à peu près comment fonctionne justement ce circuit de la récompense dans le cerveau. Est-ce qu'on pourrait pas faire, entre guillemets, le circuit inverse pour contrecarrer le phénomène de la dépendance?
Ce qui est très compliqué, c'est que le cerveau humain, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. Si vous voulez, en prenant un parallèle, c'est une espèce de gigantesque toile d'araignée en trois dimensions. Le problème, c'est que ces fils, ils évoluent, il y a des nouvelles connexions qui se créent, il y en a qui disparaissent. Et toute expérience de l'individu, et notamment la prise de drogue, va changer cette gigantesque toile. Résultat, aller dans le sens inverse, c'est pas dit qu'on puisse le faire en fait. D'un point de vue purement scientifique, on ne sait pas si on peut réverser le phénomène. À l'heure actuelle, on ne sait pas si un cerveau qui a vu, entre guillemets, de la drogue pendant des semaines, des mois ou des années, est capable de revenir à un état d'équilibre initial. On pense qu'on peut rechanger l'équilibre pour entre guillemets, en donner un nouveau sans drogue. Mais est-ce que ce sera le même que celui avant la drogue? Sûrement pas. Et c'est pour ça que même les gens qui ont arrêté, en général, de prendre telle ou telle drogue et qui s'abstiennent, qui sont en sevrage depuis très longtemps, ont une probabilité de rechute qui est nettement supérieure à celle des gens qui n'en ont jamais vu, parce que leur cerveau garde la trace, entre guillemets, de la drogue.
On a abordé tout à l'heure la question de la dépendance sans drogue, où il y a des gens qui deviennent dépendants au jeu, au sexe, aux jeux vidéo. Il y a des gens qui sont dépendants du jeu, dans le sens jeu pathologique. Mm-hmm. Est-ce que cette dépendance, ça suit un peu les mêmes circuits que les dépendances aux drogues? Et est-ce qu'il y a les mêmes bases biologiques derrière?
Alors, cette dépendance, elle suit pas un petit peu, quasiment exactement les mêmes schémas. En tout cas, elle va activer les mêmes zones cérébrales. Ce qui est très intéressant, vu que c'est vraiment les mêmes conséquences sur l'organisme et sur la perte de contrôle. Après, comment ça fonctionne? C'est, entre guillemets, le fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'une substance qui vient de l'extérieur pour stimuler le circuit de la récompense, on peut très bien le stimuler justement par des activités différentes comme le jeu, le sexe, le téléphone portable, internet, je sais pas, les nouvelles dépendances sans substance, elles deviennent de plus en plus innombrables avec la technologie, parce que la technologie nous en fabrique un petit peu tous les jours. Il y a une espèce de raz-de-marée, moi, je pense, d'addiction au téléphone portable actuel, surtout à celui qui fait tout et résultat sur lesquels les gens sont des heures et des heures par jour. Oui, ça active les mêmes zones et ça prend les mêmes schémas pour entraîner des dépendances. C'est pour ça qu'on les regroupe maintenant avec les dépendances classiques, entre guillemets, avec drogue.
Même schéma, est-ce que ça veut dire aussi même intervention pour corriger la situation?
Ça veut dire qu'effectivement, les mêmes genres de traitements sont à mettre en œuvre. Les mêmes genres de traitements, il faut évidemment faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a des traitements médicamenteux qui dépendent de la drogue. Mm-hmm. Les traitements aux opiacés sont directement liés à l'endroit où cette morphine, cette héroïne va se fixer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer le lieu d'action, par exemple. Évidemment, en donnant ces bloquants de lieu d'action de la morphine ou de l'héroïne à des gens qui font 3 heures de jeu pathologique par jour ou plus, ça leur fera rien du tout. Mais les dynamiques et les traitements, en tout cas comportementaux, sont comparables à mon avis. Oui.
Les avancées scientifiques sont de plus en plus rapides. Il n'y a pas une journée sans qu'on entende parler quelque part que quelque chose d'autre a été découvert ou confectionné. Même dans le monde des drogues, là, il y a des drogues qui apparaissent tous les ans sur le marché. Est-ce que les contre-drogues ou les traitements anti-drogues suivent le même rythme ou on est toujours un traitement en retard sur l'apparition des nouvelles drogues?
Il y aura toujours un moment, un temps de retard, puisque on répond un petit peu au coup par coup, et puisque surtout, en fait, la grosse différence, c'est que la mise en place de nouvelles substances ou l'utilisation différente de substances déjà existantes, parce qu'il faut quand même dire que toutes ces nouvelles drogues dont on parle à l'heure actuelle, pour la plupart, elles étaient déjà utilisées il y a un siècle pour traiter telle ou telle pathologie. Hein. Ça a été remis au goût du jour et réactualisé, et on les a utilisées différemment, disons. Je pense qu'il y aura toujours un moment de retard pour traiter correctement ces dépendances et surtout pour contrecarrer ces drogues, puisque il y a une phase où il faut vraiment comprendre intimement et scientifiquement comment elles agissent et pourquoi elles entraînent ces différents effets avant de pouvoir penser à contrecarrer ces effets, justement. Donc il y aura toujours un moment de retard, et je pense que ce moment de retard, moins il est long, même si la recherche va de plus en plus vite, plus c'est dangereux, parce que moins on aura pris le temps vraiment d'aller jusqu'au fond des choses et de trouver des traitements qui sont vraiment efficaces, sans effets secondaires, etc. Il faut quand même dire que, mine de rien, les traitements sur le marché ne couvrent que la moitié des drogues existantes. Il y a des drogues pour lesquelles on n'a pas du tout de traitement médicamenteux, en tout cas. Si on regarde dans les grandes familles de drogues, on a des traitements médicamenteux pour le tabac, surtout pour la nicotine, ce qui est différent, et pour les opiacés, morphine, héroïne, pour la cocaïne, les amphétamines, pour le cannabis, pour l'alcool un petit peu, mais très peu, mais pour toutes celles que je viens de citer juste avant, il n'y en a pas.
Je voudrais, en terminant, rappeler le titre du livre, « Cerveau, drogue et dépendance », écrit par Lucas Salomon, et qui est paru aux éditions Belin pour la science. Merci beaucoup, M. Salomon, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Et c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin, les journalistes Sophie André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal Srivastava au site internet, plus André Bertrand, chroniqueur, Marie-Dominique Beaulieu. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.